Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Et si revenir à 90 km/h était beaucoup plus compliqué que prévu? Le président du département de Seine-et-Marne renonce, trop cher, trop difficile, il nous expliquera. Patrick Septier est notre invité dans un instant. La coalition populiste en Italie vit-elle ces dernières heures? Dans 2 heures, au Sénat de Rome, discours du Premier ministre Giuseppe Conte. Va-t-il présenter sa démission? Matteo Salvini appelle à des élections anticipées. Pour empêcher le succès de l'extrême droite, ses adversaires envisagent les coalitions les plus baroques. Une nouvelle attaque terroriste majeure au Burkina Faso. Une vingtaine de morts au moins à Koutougou. Bilan provisoire. Pôle emploi est-il dans son rôle en relayant des annonces d'Uber Eats ou Deliveroo aux conditions de travail très discutables? C'est la controverse après une série d'annonces publiées cet été. Une conséquence de plus au changement climatique, forte pluie ou canicule. Non seulement les événements extrêmes vont être plus fréquents et puissants, mais aussi plus longs. Une nouvelle étude le montre. La météo en France. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
On surveille encore les pluies, Élodie.
Oui, des Pyrénées vers l'Alsace, les Alpes, des pluies marquées, parfois orageuses sur le centre-est. Alors sur les Pyrénées, elles vont s'espacer tout de même. L'Ariège reste en vigilance orange jusqu'à 14h. Il est déjà tombé l'équivalent de plus de 22 jours de pluie à Saint-Girons. Température trop juste, hein, 19 à 26 degrés, 31 pour la Corse.
A tout à l'heure pour d'autres détails. Avant cela, l'histoire légère et souriante du jour. Ce pizzaïolo de Saint-Laurent en Beaumont n'en est parvenu dimanche quand il a vu une cliente très élégante débarquer chez lui.
J'étais avec le frère de ma patronne qui me dit, il me dit je connais. Et en fin de compte, d'un coup, ça lui est venu, il m'a dit oui, c'était elle. Et puis c'était son mari qui conduisait la Ferrari, mais lui est resté sur le parking dehors.
Alors c'était elle, mais qui était-ce? Eh bien, ce sera notre petit mystère jusqu'à 13h18. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et une fois n'est pas coutume, commençons avec un reportage déjà diffusé sur France Inter, un extrait. C'est le débat sur les 80 ou 90 km/h sur les routes secondaires. 19 juillet dernier, Sébastien Sabiron roule avec un de ses présidents de département, prêt à repasser rapidement à 90, Patrick Septier en Seine-et-Marne en voiture.
On va faire un petit tour sur la D606 qui relie Fontainebleau à Montereau.
Un axe structurant que Patrick Septier veut voir repasser à 90 km/h. Question de cohérence selon le président du département.
Alors là, vous voyez, nous sommes à 90 et tout d'un coup, on va passer à 80 km/h. Vous voyez, on est sur une seule file. Là, on vient à 2 et on est toujours à 80 alors que tout à l'heure à 2, nous étions à 90. Donc c'est très compliqué d'avoir une cohérence de route parce que les panneaux changent tout le temps.
Voilà pour ce petit extrait de reportage. Bonjour Patrick Septier.
Bonjour.
Président du département de Seine-et-Marne, vous vouliez repasser au moins en partie à 90 dans votre département. Vous aviez listé 500 km de route et finalement vous renoncez, c'est bien cela?
Pour l'instant, je ne renonce pas. Je suis un peu dépité de ce que nous avons appris il y a quelques jours, comme quoi les conditions pour repasser à 90 km/h sont tout à fait draconiennes. Je vous en citerai trois. D'abord, il faudrait mettre en place un terre-plein central pour toutes les routes. Vous imaginez, en Seine-et-Marne, nous avons 3000 km de route hors agglomération, vous imaginez le coût. Ensuite, il faut que pendant 10 km, il n'y ait pas de carrefour. Est-ce que vous connaissez des routes départementales en France qui, sur 10 km, vont pas avoir de carrefour?
Pas beaucoup,
enfin,
non.
Et enfin, une troisième, oui. Il faut pas que la route soit empruntée à un moment donné par des engins agricoles. Alors, les routes départementales... en Seine-et-Marne et dans bien d'autres départements de France, bien évidemment, sont empruntés sur des petits tronçons et de façon tout à fait irrégulière par des engins agricoles.
Alors vous ne renoncez pas encore, mais vous dites, dans ces conditions, ça va être très compliqué.
C'est-à-dire deux choses. Je dis que le gouvernement, il y a une loi qui a été votée qui dit qu'on va redonner la main dans la concertation aux élus locaux, et puis il y a un comité qui se réunit et qui pose des conditions, en fin de compte, qui rendent absolument impossible la remise à 90 km de certains tronçons.
Ces difficultés que vous rencontrez, vous, Patrick Septier, ça veut dire que d'autres présidents de département vont les rencontrer aussi?
Tous les présidents de département. Donc on est vraiment dépité de la façon dont le gouvernement traite ce sujet. Il avait déjà imposé sans concertation les 80 km/h. On nous dit après, écoutez, vous allez pouvoir le faire. Et au moment où la loi est votée, on nous met des contraintes. La loi, à ce moment-là, aurait dû être plus claire. Le gouvernement aurait dû consulter ce comité avant que cette loi soit votée. Et au fin de compte, la loi aurait dit, on donne la main aux élus locaux, mais ils ne pourront pas le faire. Parce qu'en fin de compte, les conditions sont telles que c'est techniquement Impossible.
Vous pensez qu'il y a une petite manip, c'est une façon de ne pas passer, de ne pas laisser repasser à 90?
D'un côté, on nous dit, on vous responsabilise, on vous redonne du pouvoir, etc. Et puis de l'autre côté, on met des conditions telles que c'est impossible à réaliser.
Vous en avez discuté avec certains de vos collègues, Patrick Septier?
Pas encore, mais je pense que tout le monde est un peu dans cette idée-là. Là, le gouvernement vraiment nous met dans bateau.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être intervenu dans le journal de 13h. Vous ne renoncez pas.
Merci
donc,
vous.
Mais vous dites que ce sera très très compliqué dans ces conditions. C'est aujourd'hui que l'allocation de rentrée scolaire est distribuée à 3 millions de familles, 400 euros par enfant, un peu moins le plus souvent. C'est sous condition de ressources. On ne la touche pas, par exemple, si vos revenus dépassent 30 000 euros annuels avec deux enfants à charge. Quand Pôle emploi relaie des annonces de recrutement de Deliveroo et Uber Eats. Est-ce que c'est légal? Et que penser de cette vitrine offerte à des entreprises où les conditions de travail sont très moyennes? Bonjour Adrien Bossard.
Bonjour Bruno.
Vous avez ouvert le dossier, Adrien. Les annonces ont été publiées au début de l'été sur des comptes Facebook de certaines agences régionales de Pôle emploi.
Oui, 48 annonces sont encore en ligne pour être livreur chez Deliveroo à Annecy, Grenoble ou Marseille, un peu moins pour Uber Eats. Et tout est légal en apparence. Il est spécifique, ce sont des contrats de prestataire de services, en clair un statut d'auto-entrepreneur, mais qui n'est pas présenté comme tel, donc le cadre est respecté. Des offres dites non salariées, Pôle emploi en diffuse déjà, comme dans la profession libérale. Les offres ne sont pas discriminatoires et surtout, Uber Eats et Deliveroo sont des entreprises légales, reconnues par l'État. Pôle emploi, dans sa mission de service public, est tenu de diffuser leurs offres dans la mesure où tout est en règle. Après, est-ce moral d'encourager l'uberisation du travail? C'est là la vraie question. Pour Johan Pictorov de la CGT Pôle emploi Île-de-France, c'est contraire à la charte d'éthique de l'opérateur public.
On assiste à une mutation du marché du travail et que Pôle emploi a décidé d'accompagner la précarité en fait. Pôle emploi n'est pas là, contrairement à son discours, pour insérer durablement les gens sur le marché du travail. Elle est juste là pour valider le fait que la société se précarise de plus en plus et que finalement on fait en sorte que les travailleurs soient interchangeables, corvéables à merci, sans aucune protection juridique autre que celle du pauvre statut auto-entrepreneur.
Un statut en plus dont ne veut plus beaucoup de livreurs hein, chez Uber Eats et Deliveroo. Depuis des mois, ils réclament un contrat de travail, un vrai. Contacter la direction de Pôle emploi ne donne pas suite pour l'instant à nos questions.
Merci Adrien Bossard. À Marseille, la traque des cigarettes de contrebande marche fort. C'est un chiffre donné par nos confrères de France Bleu Provence. 12 000 cartouches de cigarettes saisies depuis la création il y a 3 mois d'une unité de police spécialement dédiée à cette tâche. Et une attaque de plus au Burkina Faso. Le Burkina, c'est un point d'entrée de l'infection terroriste en Afrique de l'Ouest. Pays du Sahel, pauvre, armée souvent dépassée, des dizaines voire des centaines de djihadistes dans l'orbite de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Une attaque de plus donc, celle-ci hier dans le Nord, contre le détachement militaire de Koutougou, est particulièrement importante. Sur place, Fanny Noiro.
Une attaque d'envergure, pour reprendre les mots de l'armée. Les assaillants sont arrivés à l'aube, ils ont incendié les dortoirs, les motos, ils ont emporté avec eux armes et pick-up. Officiellement, pas de chiffres précis. Le communiqué succinct de l'état-major parle de plus d'une dizaine de soldats tués et plusieurs blessés. Mais selon nos informations, 24 militaires pourraient avoir été tués, d'autres seraient portés disparus. Difficile d'en savoir plus. Depuis peu, au Burkina Faso, communiquer sur des opérations militaires en cours ou sur des événements qui peuvent déstabiliser le moral des troupes est passible de lourdes amendes et de peines de prison. La communication est donc verrouillée. L'armée burkinabé veut montrer qu'elle a le contrôle de son territoire. Mais si ces chiffres se confirment, ce serait alors la plus grosse attaque jamais perpétrée contre les forces de défense et sécurité burkinabé et une lourde défaite pour l'image de l'armée. À Ouagadougou, Fanny Noiro, France Inter.
En Syrie, les rebelles dits modérés et les djihadistes se sont retirés ces dernières heures d'un secteur clé de la région d'Idleb. L'offensive est menée par le régime syrien de Bachar el-Assad. Et conséquence de ces combats de ces dernières heures, un poste militaire turc est encerclé par les forces syriennes. En Italie, la coalition entre l'extrême droite de Matteo Salvini et les populistes des 5 étoiles vit peut-être ces dernières heures. Les désaccords deviennent trop nombreux. Au début du mois, alors que les sondages sont flatteurs pour lui. Salvini, ministre de l'Intérieur, a appelé à des élections anticipées. Il demande aux Italiens de lui donner les pleins pouvoirs. Pour qu'il y ait de nouvelles élections, il faut d'abord que le Premier ministre Giuseppe Conte démissionne et qu'il n'y ait plus de majorité au Parlement. Conte se prononce en début d'après-midi devant le Sénat, discours à 15h. quelle que soit l'issue, il pourrait jouer un rôle dans les semaines à venir en Italie. Parce que son histoire, au fond, c'est celle d'un homme choisi parce qu'il était terne au départ et qui en a fait un atout. Le politologue spécialiste de l'Italie, Christian Blasberg.
Tout le monde a pensé au début que Conte était seulement une espèce de marionnette, qu'à la fin, les deux forces politiques, Di Maio et Salvini, pourraient faire ce qu'ils voulaient avec Conte. Quelquefois, c'était comme ça, mais Conte, comme une personne très calme, comme une personne très claire quand il était nécessaire, il a démontré que la politique n'est pas seulement l'agitation qu'on a vue de Salvini, l'agitation qu'on a vue aussi de Di Maio. Conte, il était le garant d'une politique de la raison qui a du respect devant les institutions, qui vraiment représente la neutralité entre les forces politiques. Et maintenant, on parle d'une possibilité d'un gouvernement formé des 5 étoiles et du Parti démocratique. Et ce gouvernement pourrait être de nouveau présidé par Giuseppe Conte, parce que Conte n'est pas un homme du parti. Cela est très important pour les Italiens. Et il pourrait être un garant pour tous les autres partenaires politiques aussi au dehors de l'Italie.
Le politologue Christian Blasberg avec Antonino Gallofaro. Le discours de Giuseppe Conte, c'est donc à 15h. Faut-il y voir une preuve que sa démission est imminente? En tout cas, ce matin, le vice-premier ministre 5 étoiles, Luigi Di Maio, salue sur Facebook le travail accompli par le gouvernement. Cette crise en Italie, c'est un nouvel accès de fièvre en Europe, déjà secoué l'Europe par le Brexit, les discussions commerciales tendues avec les États-Unis et la croissance économique faiblarde. De tout cela, il sera question en fin de semaine au G7 de Biarritz. Les 7 pays considérés comme les plus puissants réunis aux Pays-Bas, qu'il manque la Chine dans le groupe. Donald Trump, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel et tous les autres dans la cité basque. Les mesures de sécurité sont à la hauteur. Plus de 40 compagnies de CRS, une 50aine d'escadrons de gendarmerie. Et à partir de jeudi minuit, vendredi 0h, l'hypercentre, autrement dit les deux grandes plages et leurs abords, passe en zone rouge, aucune voiture. Un peu moins au centre, c'est zone bleue. Et seuls les habitants et professionnels pourront passer. Il faut un badge. La distribution est ouverte depuis le début du mois d'août. Mais c'est maintenant, au dernier moment, qu'il y a la queue au centre d'accréditation. Envoyé spécial de France Inter, Mathilde Deuimi.
Cordon orange, violet ou vert, obligatoire autour du cou, relié à un badge, sésame indispensable pour aller et venir dans les zones les plus proches du sommet.
Bonjour.
C'est pour un dépôt de dossier.
La file est ininterrompue devant les 10 guichets.
Je vais continuer vers mon collègue juste en face.
Près de 28 000 badges ont été demandés, plus que l'ensemble de la population de Biarritz. 15 000 déjà retirés.
8.
Il y a ceux qui découvrent le système.
On est en vacances et effectivement l'appartement se trouve en zone bleue et il nous faut un badge obligatoire.
Ceux qui veulent modifier leur dossier.
On a rajouté des personnes, ce qui n'était pas prévu au départ, il y a un mois. Du coup, je viens récupérer les badges manquants.
Ou ceux qui jouent de malchance.
J'ai perdu mes papiers hier soir. On va attendre, on verra bien ce qu'ils me disent. Hein. Si j'ai pas mon passe à laisser passer, je ne pourrai pas rentrer chez moi ni aller au boulot. Quoi.
Les badges devront être portés dès vendredi minuit, 24 heures avant le début officiel du sommet. La solidarité aussi va pouvoir s'organiser. Le conseiller municipal d'opposition, François Amigorena, a lancé deux groupes Facebook d'entraide, dont un réservé aux habitants badgés.
On a des personnes qui sont un peu fragiles, ou un peu dépendantes, qui ont besoin d'un peu de ménage, de quelques courses, etc. Et il y a aussi effectivement beaucoup de demandes sur les moyens de déplacement. Comment se déplacer, voire de leur donner un petit trajet en voiture, ce genre de choses.
Le centre de distribution des badges va fermer jeudi pour ouvrir hors de la zone, avec une permanence de nuit si besoin.
Et je vous parlais des mesures de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, viendra superviser les troupes cet après-midi. À quelques encablures de Biarritz, à Hendaye, le contre-sommet des écologistes altermondialistes, syndicats et anarchistes et militants d'extrême gauche se préparent, lui, à Hendaye. Et puis, on a appris il y a quelques minutes l'arrestation de 5 personnes. C'était hier. 5 personnes qui menaçaient sur les réseaux sociaux de s'en prendre aux forces de l'ordre en marge de ce G7. En Chine, alors que les manifestants pro-démocratie multiplient les démonstrations de force à Hong Kong, juste à côté, dans la ville de Shenzhen, un employé du consulat britannique a disparu. A-t-il été arrêté? La Grande-Bretagne fait part de sa grande préoccupation. À Londres, Marina Daras.
Simon Cheng n'a donné aucun signe de vie depuis 12 jours. Il était censé rentrer d'un voyage d'affaires à Shenzhen, en Chine, lorsqu'il a été intercepté à la frontière. Le jeune homme de 28 ans travaille dans le développement commercial de la section écossaise du consulat du Royaume-Uni à Hong Kong. D'après l'agence de presse locale, Simon Cheng était dans le train en direction de Hong Kong lorsqu'il a contacté contacté sa petite amie et lui aurait demandé de prier pour lui avant que la communication ne soit coupée. En Chine, une détention administrative peut durer jusqu'à 15 jours sans qu'aucune raison ne soit donnée, ce qui inquiète fortement le ministère des Affaires étrangères britannique, d'autant plus que l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni avait demandé à la Grande-Bretagne de ne pas se mêler des affaires intérieures chinoises à la suite de violences lors de manifestations historiques contre le gouvernement. Depuis près de 3 mois, les manifestants hongkongais réclament des réformes démocratiques face à l'érosion des libertés ainsi que la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, accusée d'être pro-Pékin. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Un Français tué par un ours au Canada. Il s'appelait Julien Gauthier. Il avait 44 ans, compositeur de son état. Il était en expédition avec une amie en canoë pour descendre le fleuve Mackenzie. À cause du changement climatique, non seulement les événements extrêmes vont être plus fréquents, plus intenses, mais aussi plus longs. Les canicules, les sécheresses, les très fortes pluies, les épisodes vont durer plus longtemps dans l'avenir. Une nouvelle étude le démontre, Sandy Dauphin.
Oui, on savait que le réchauffement climatique produisait plus de journées caniculaires et d'épisodes de pluies diluviennes. Cette étude, parue dans la revue Nature Climate Change, nous dit que ces phénomènes météo extrêmes vont durer plus longtemps. Et ce, même si l'on parvient à limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés, ce qui est loin d'être gagné. Docteur Karl Frederik Schnössner de l'université Humboldt à Berlin, co-auteur de l'article.
Dans notre étude, dans un monde à plus de 2 degrés, la probabilité de canicule de plus de 2 semaines augmente de 4% en moyenne dans l'hémisphère nord.
L'étude dit aussi qu'il faut se préparer à des changements de pluviosité. Le risque d'avoir une semaine complète de pluie diluvienne augmente de 26% en moyenne dans les latitudes moyennes, d'où le risque d'inondation. Il faudra aussi s'adapter à des périodes sans précipitations plus longues durant l'été, y compris en France.
Pour la France, et notamment pour le sud de la France, qui connaît un climat méditerranéen, on peut dire que la probabilité d'avoir des périodes de sécheresse de 14 jours pendant l'été augmente de 5% dans un monde à plus de 2 degrés.
L'étude fait également le lien entre le réchauffement climatique et la crue record de la Seine en juin 2016 en Île-de-France. Les inondations avaient été précédées par 3 périodes rapprochées de plusieurs jours de fortes pluies.
Sur l'île de Grande-Canarie, au large du Maroc, l'incendie a perdu de sa puissance la nuit dernière, mais il n'est pas éteint. Les flammes ont ravagé 10 000 hectares, ce qui est à peu près la superficie de Paris. Une part de pizza avant la météo. Vous connaissez la pizza Margherita, recette inventée en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie, dit la légende. Les cartes de restaurants proposent aussi bien souvent des pizzas royales ou des pizzas reines. Eh bien, devinez qui a débarqué chez Casa Nostra à Saint-Laurent-en-Beaumont en Isère. C'était dimanche dernier, midi moins le quart, une voiture de police banalisée, une grosse berline et pour couronner le tout, une Ferrari. Une dame en sort et David, le pizzaïolo, raconte.
J'étais avec le frère de ma patronne là, qui me dit, il me dit « je connais ». Et en fin de compte, d'un coup, ça lui est venu, il m'a dit c'est la reine de Suède. On a vite regardé sur Internet, s'est avéré que oui, c'était elle. Et puis c'était son mari qui conduisait la Ferrari, mais lui est resté sur le parking dehors. Il avait son majordome qui était à côté d'elle, qui lui a traduit la carte des pizzas, tout ça. Et du coup, voilà, elle a demandé une pizza Margherita. C'était pas la pizza royale. Pourtant, je l'ai à la carte, la pizza royale, mais non, c'était la Margherita. Ça nous a même étonné, hein. Elle était très, très simple. Elle est restée au bar discuter. Ensuite, elle est venue au poste à pizza voir sa pizza cuire.
En tout cas, votre pizza, vous l'avez faite comme pour n'importe quel autre client.
J'ai un peu tremblé en la faisant, quand même. Quand elle est partie, elle nous a fait coucou et tout. Non, très simple.
David Buisson, le pizzaïolo de chez Casa Nostra avec Véronique Pueyo. Allez garçons, un tiramisu, un café et la météo servie par Elodie Calac. C'est agité dans le sud et dans l'est. L'Ariège reste en vigilance orange, pluie, inondation, pas très longtemps.
Entre l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace, de bonnes pluies, des orages aussi vers les Alpes. Sur les Pyrénées et l'Occitanie, des pluies circulent encore, mais elles deviennent plus irrégulières. Des averses touchent l'intérieur de la Provence, le sud des Alpes, parfois avec un orage. Des Bouches-du-Rhône à la Côte d'Azur, on garde des éclaircies. Un beau soleil en Corse. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 60 km à l'heure. Beaucoup de nuages sur la Bourgogne, sur la Lorraine également. Et puis en allant vers le nord, le nord-ouest, l'Aquitaine, c'est agréable avec de bons moments de soleil. Côté thermomètre, ça baisse encore un peu, 19 degrés au Havre, à Besançon, à Lyon, 21 à Lille, Metz et Tarbes, 23 degrés à Paris, Nantes, 24 à Toulouse, 26 à Bordeaux, à Nîmes, 31 degrés à Bastia ou Ajaccio. À partir de demain, bonne nouvelle, des températures en hausse, du soleil partout. Il restera juste un risque d'orage vers les Alpes l'après-midi.